En direct de notre passé, Jacques Mourican.
Bonjour, c'est du terrible tournant des années 40 que nous allons parler dans En direct de notre passé aujourd'hui. Et vous le savez, tous les soirs, nos camarades de la télévision proposent de leur côté un épisode, eux aussi, de l'histoire suisse. Ce soir, ce sera sur le suffrage féminin qui intervient, je vous le rappelle, à partir de 1971. Je vous propose tout de suite, d'ailleurs, un extrait sonore de cet épisode.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver, Jean-Claude et moi, pour cette édition très spéciale en un jour très particulier. Comme vous pouvez le constater, la quasi-totalité de notre rédaction a voyagé jusqu'ici, ce soir, 8 février 1971, pour vous offrir cette édition exceptionnelle en direct du studio 1 de Radio Genève. Car, comme en témoigne la plupart des unes des quotidiens de la presse, ça y est, le droit de vote fédéral vient d'être accordé aux femmes. Et nous devions d'être présentes. Enfin, pardon, présents, n'est-ce pas, Jean-Claude ? Bonsoir, Jean-Claude.
Oui, bonsoir, Anne. Bonsoir à toutes. En effet, c'est arrivé. Enfin, c'est arrivé. Rien de tel que ce clin d'œil de vous voir finalement ouvrir ce journal exceptionnellement, chère Anne. En effet, c'est officiel. Le droit de vote a été accordé aux femmes de Suisse au niveau fédéral.
Je suis ravie, je suis vraiment enchantée de ces résultats. Oui, parce que je ne supportais plus qu'en 1971, dans ce pays qui est quand même censé être le berceau de la démocratie moderne, les femmes n'aient pas encore droit au vote pour s'exprimer librement sur le plan fédéral.
Oui, alors d'abord, j'aimerais naturellement dire que nous acceptons, comme démocrates, cette décision du peuple. Oui.
Monsieur Herzig, intéressons-nous un peu à vous. En tant que directeur du mouvement fédéral contre le suffrage féminin, est-ce que vous pensez toujours que les femmes et les hommes ne doivent pas être égaux aux yeux de la loi ?
L'avenir le dira, hein. Je ne suis pas prophète. Je ne sais pas quelles seront les suites de cette votation du peuple au niveau politique, au niveau économique et pour les femmes. Hein. Moi, je pense que nous avions des arguments sérieux qui soutenaient notre propos.
Oui, effectivement, beaucoup d'arguments sont allés dans ce sens. Et pendant longtemps, au début du XXe siècle, certains pouvaient écrire, je cite, « l'infériorité physiologique et intellectuelle des femmes » est inscrite dans la nature. Et leur cerveau, moins développé, limite leur performance dans le domaine de la pensée sérieuse.
Je crois qu'avec le suffrage féminin, la femme et le caractère féminin vont être dénaturés. On va voir une masculinisation de la femme et les relations sociales auront à en souffrir.
Alors, malgré le fait que vous soyez contre, est-ce que vous allez, à l'avenir, est-ce que vous allez aller voter ?
Mais naturellement qu'elle ira voter. Hein ? C'est normal, c'est une décision du peuple. Ce n'est pas un droit, mais c'est un devoir.
Petra Fay et je fais partie du mouvement de libération de la femme. Le moment n'est
quand
pas
même
aux félicitations,
non,
mais à la protestation. Rien n'a changé. Quand Madame Herzig ira voter, d'accord, ce ne sera que après avoir essuyé la vaisselle de Monsieur Herzig.
S'il vous plaît, je vous en prie, mesdames et messieurs, mesdames et mesdames, c'est la fin de ce débat.
Je crois qu'il est temps de remercier tous nos invités. Madame Montet, Madame Herzig, Monsieur Herzig, vous aussi, Petra Fay.
Excusez-moi, madame, vous gagnez autant que monsieur.
C'est bon, écoutez, je crois que c'est la fin de cette émission. Alors, madame, mademoiselle, c'est la fin de cette émission en direct d'un passé qui ne cesse d'étonner son présent. Bonsoir.
Bonsoir.
Retour à la radio, retour à notre programme que nous allons donc, nous, consacrer aux années 40. Nous sommes en effet, par la grâce de cette émission, au tournant de la guerre. Elle n'est pas encore là, mais elle menace. Le régime fasciste italien est en place depuis le début des années 20. celui de Hitler en Allemagne depuis le début des années 30. Ces deux régimes préparent la guerre, particulièrement le second, et les rapports avec la Suisse sont tendus. L'Allemagne a cruellement besoin de crédit, mais la Suisse est aussi sous la pression des Anglais et des Français qui surveillent de près ce qu'elle fait. A fortiori, bien sûr, lorsque la guerre sera déclarée, lorsque les Américains seront dans la danse, les pressions seront encore plus intenses. Et toute l'histoire que nous allons raconter aujourd'hui est celle d'un monde économique qui marche sur le fil, qui essaye de préserver comme il peut la neutralité du pays en même temps du reste que ses intérêts. Et comme l'on sait, à l'issue de la guerre, les Alliés seront très remontés contre la Suisse. Ils vont vouloir lui imposer de rudes conditions. C'est toute l'histoire de ce bras de fer, ou plutôt de ces bras de fer, qui est notre sujet du jour.
Elle me parlait de l'ombre, ses reflets, ses vertus, puis des côtes d'Irlande, où elle se baignait nue. Elles font vibrer des ondes, elles font vibrer ses ondes. Tracer une ligne de New York à Dublin, traversant l'Atlantique pour déposer ce point qui fait vibrer des ondes.
Marc Pernoud a travaillé pour la commission Berger. Il est un des contributeurs du dictionnaire historique de la Suisse. Et on lui doit un livre intitulé « Banquier et diplomate suisse 38-46 ». C'est justement la période dont je vous parlais. Ce livre est paru aux éditions Antipode. Il sera notre fil rouge aujourd'hui. Marc Pernoud, nous allons avec vous vivre des moments très difficiles de l'histoire suisse, les années 30, où il y a beaucoup de passion, où il y a d'énormes enjeux dans les pays alentours. Cependant, on ne comprendrait peut-être pas grand-chose à ce que vous allez nous raconter si, au fond, on remontait un peu plus loin dans l'histoire suisse, dans les relations un peu difficiles qu'elle a avec ses puissances. Ça lui est difficile d'être expansionniste elle-même, c'est un tout petit pays, puis en même temps tous les voisins sont expansionnistes. Comment se positionne-t-elle dans ses aventures vers l'extérieur que les autres nations ont? Comment tire-t-elle sa carte finalement?
En fait, depuis plusieurs siècles, la Suisse n'est pas repliée sur elle-même, mais elle participe aux relations internationales à sa manière. Et notamment au XIXe siècle, elle ne participe pas à l'expansion coloniale qui est menée par les grandes puissances. Toutefois, des Suisses sont présents à travers tous les continents et jouent un rôle dans ces pays. Le professeur Roland Ruffieux avait utilisé l'expression du colonialisme oblique pour déterminer comment, dans le sillage des grandes puissances, la Suisse a pu bénéficier de la prospérité des systèmes coloniaux pour placer des positions économiques importantes qu'elle a développées par la suite. Et dès 1914, on constate que la Suisse est un des pays qui, par tête d'habitants, a la masse de capitaux investis à l'étranger la plus importante. Donc c'est, dès cette époque, une puissance économique non négligeable pour les partenaires des relations internationales.
Car, si je vous comprends bien, Marc Pernoud, tandis que les puissances, elles, arrivent quand même dans les colonies avec des armes et des uniformes, la Suisse, elle, arrive avec des hommes d'affaires.
Alors, des hommes d'affaires ou d'autres catégories professionnelles, mais en tout cas, pour les hommes d'affaires, c'était une situation favorable, car ils pouvaient développer des activités économiques, mais la Suisse, en tant qu'État, ne devait pas financer l'appareil militaire, les forces de police, qu'il était nécessaire d'avoir si l'on voulait avoir des colonies à l'étranger. Donc, de ce point de vue-là, la Suisse a bénéficié de ce que faisaient les grandes puissances en étant active dans les colonies, en obtenant des matières premières à des prix plus bas qu'auparavant et en participant à l'expansion économique, au développement des industries ou des infrastructures dans ces pays.
On va rappeler que Henri Dunant en personne, le fondateur de la Croix-Rouge, a eu une aventure pas très heureuse, si je ne me trompe pas, en Algérie, au moment de la colonisation algérienne, et qu'il y a eu des sociétés genevoises qui ont investi des capitaux qui ont été très présentes en Algérie, par exemple, on ne le sait pas tellement.
Par exemple, il y a un autre exemple qu'on peut citer, c'est la famille Borgeot, qui, elle, a commencé en Algérie avec le patriarche qui était le consul de Suisse à Alger au XIXe siècle. Et ensuite, les Borgeots sont devenus quelque part plus français que les Français, c'est-à-dire ont développé des propriétés agricoles particulièrement prospères. Et c'était une des familles les plus riches d'Algérie au XXe siècle.
Alors, banquier et diplomate suisse 1938-1946, c'est un de vos livres, c'est paru aux éditions Antipode, qui au fond pose le problème de ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous disions il y a un instant les années 30 très difficiles, et en somme, il va falloir que ces deux catégories de personnages négocient au mieux dans un contexte que peut-être il faudrait que vous nous rappeliez.
Alors évidemment, le contexte de la crise des années 30 est très compliqué, mais ce qu'on peut dire en deux mots, c'est que le principal pays, sur le plan commercial et sur le plan financier, c'était l'Allemagne à cette époque. Et en 1931, la crise économique est telle en Allemagne qu'il y a un blocage des avoirs étrangers, des transactions courantes entre l'Allemagne et les pays étrangers. Donc la Suisse est particulièrement concernée. Et cette situation oblige les autorités politiques suisses, qui étaient de conviction libérale, à intervenir à leur manière dans les relations économiques et financières. Et sur le plan bancaire, cela signifie que des négociations sont menées directement entre les banquiers suisses et les banquiers allemands pour sauvegarder les intérêts des banquiers suisses. Et en même temps, une série de réglementations sont mises en place pour essayer de récupérer ce qu'il était possible de récupérer en Allemagne et de les transférer en Suisse ou ailleurs. Et parallèlement, au cours des années 30, on voit donc à la fois un mouvement de retrait relatif du marché allemand et des marchés d'Europe centrale qui étaient très importants pour l'économie suisse, notamment dans les années 20, et en même temps, un autre mouvement qui est l'expansion des affaires des banques suisses aux États-Unis. En 1939, les deux principales banques, la Société de Banque Suisse et le Crédit Suisse, ouvrent des succursales à New York. Donc le marché américain devient de plus en plus important pour les banques suisses. Et elles y exportent des capitaux, notamment des capitaux qui viennent d'Allemagne, mais aussi beaucoup de capitaux qui venaient de France, parce que, à cause du Front populaire, à cause de la crise économique, à cause de différents facteurs politiques, beaucoup de capitaux français affluent en Suisse et les banques suisses les réexportent vers les États-Unis. Ce qui fait qu'à la fin des années 30, les enquêtes de l'administration américaine montrent que la Suisse est le deuxième importateur de capitaux aux États-Unis. Donc, il en ressort une question pour les Américains, mais d'où vient tout cet argent? Et les banquiers suisses ne veulent pas révéler que cela vient en grande partie de France. Donc on va tout faire pour éviter de donner le nom des clients, des propriétaires effectifs de ces capitaux suisses.
J'ai jamais entendu parler de ce genre de choses. Parce qu'on voit qu'une certaine permanence de l'histoire.
Donc là, le secret bancaire devient des atouts décisifs pour les banquiers suisses, à la fois pour développer des affaires au niveau international et pour se protéger face aux investigations des administrations publiques aux États-Unis, en France, en Allemagne ou ailleurs. Et donc, ce contexte-là pose un problème aussi pour la diplomatie suisse, parce que les autorités américaines s'adressent aussi à la diplomatie suisse, aux représentants à Washington et ailleurs, et leur demandent de fournir des informations, d'agir, parce que surtout à partir de 1941, avec l'entrée en guerre des États-Unis, il devient de plus en plus important pour les Américains d'empêcher une infiltration économique et financière de leurs adversaires sur le marché américain. D'où une méfiance de plus en plus grande à l'égard de la Suisse, parce que on constate cette importance massive des capitaux sous pavillon suisse aux États-Unis, et les Américains cherchent à savoir ce qu'il y a derrière cette masse de capitaux.
Jusqu'à 16h, en direct de notre passé, sur la première.
Où est la Suisse financière dans le monde à ce moment-là ? Marc Pernoud.
Avant 1931, c'était l'Allemagne qui était le principal partenaire économique pour les banques suisses. Et de plus en plus, au cours des années 30 et par la suite, le marché français en Europe, mais aussi la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, deviennent de plus en plus importants. Et aux États-Unis, comme j'ai dit auparavant, il y a un développement massif des investissements. Mais c'est aussi le cas pour l'Amérique latine. On voit une série de sociétés financières qui sont de plus en plus importantes dans des pays comme le Mexique, comme le Brésil et comme l'Argentine. Et là, c'est aussi des intérêts bancaires, mais aussi des entreprises financières dans le domaine de l'électricité, une série d'infrastructures de l'économie de l'Amérique latine, dans lesquelles les Suisses jouent un rôle très important. Mais vous avez aussi d'autres pays comme le Japon ou des entreprises comme Nestlé sont particulièrement bien implantées, et le Japon, mais aussi les autres pays dans lesquels le Japon joue un rôle de plus en plus important.
Et lorsqu'on parle d'histoire, évidemment, il faut tout de suite se poser la question des dates. Cette situation qui met la Suisse, en somme, à l'échelle de la planète dans les années 30, avec des remous que nous aurons à dire, vous diriez qu'elle date de ces années 30 ou en réalité, il faut remonter bien avant dans l'histoire suisse pour voir ces implantations un peu partout, du moins du point de vue bancaire?
Alors là, il faut remonter, disons, plusieurs siècles en arrière. On voit des pionniers de l'expansion suisse à travers le monde qui sont actifs lors des compagnies mercenaires. Le mercenariat a été une des bases de cette expansion de la Suisse à travers le monde, mais on voit aussi des compagnies textiles, des banques, que ce soit en Italie, par exemple dans la région de Naples, ou en France, les débuts de la Banque de France, par exemple, étaient marqués par une forte présence de personnalités suisses. Vous avez donc ici toute une série de contacts internationaux qui vont de plus en plus se développer avec des formes diverses selon les époques. Et la Suisse va s'adapter à l'évolution internationale pour pouvoir dégager des niches dans lequel elle va plus particulièrement se développer. Elle ne va pas faire exactement ce que font les grandes puissances, mais faire ce que les grandes puissances ne peuvent pas optimiser comme activité. Et alors, une de ces activités sera notamment la gestion de fortune qui bénéficie du secret bancaire pour pouvoir se développer.
Alors, ça nous dit, au fond, le cœur de l'histoire suisse, quelque part. Parce que la stratégie de niche dont vous venez de nous parler, on a un peu l'impression que si on cherche bien, si on gratte un peu, on la trouverait presque partout dans l'histoire du pays. Est-ce que je me trompe ?
Non, je pense que c'est une caractéristique que l'on retrouve dans d'autres activités économiques en Suisse. Géographiquement, la Suisse est un petit pays, mais elle a un certain nombre d'atouts et c'est ces atouts qu'elle valorise au maximum. Alors, on peut voir dans l'horlogerie avec les spécialisations techniques très fines et très spécialisées, dans le domaine bancaire, mais aussi dans le domaine industriel, aussi avec une série d'activités et de spécialités que l'économie suisse est capable de fournir, alors que pour d'autres pays, c'était plus difficile.
Nous avons, avec vous Marc Pernoud, posé au fond le cadre de cette évolution des acteurs qui vous intéressent, les banquiers et les diplomates suisses dans cette période difficile de l'avant-guerre, avant-deuxième guerre, la guerre elle-même et l'après-guerre. Tout de même, je ne peux pas m'empêcher de réagir, banquiers et diplomates, c'est quand même un tout petit peu le même monde. Et par conséquent, on se demande si le fait qu'ils aient beaucoup collaboré, comme vous venez déjà de nous l'expliquer depuis le début de cet entretien, ça n'était pas un peu fatal?
C'était peut-être un peu fatal, mais disons, il y avait une proximité sociale, mais qui ne signifiait pas une identité, une égalité dans tous les cas. On voit qu'il y a des histoires structurelles et institutionnelles qui sont différentes. Et l'appareil diplomatique en Suisse est pendant des décennies au XIXe siècle très réduit. L'Association suisse des banquiers est fondée seulement en 1912, la Banque nationale ayant été fondée en 1907. Donc il y a des structures qui se mettent en place et pendant l'entre-deux-guerres, la nécessité de défendre tous ces capitaux suisses investis à travers le monde fait que l'Association suisse des banquiers va s'organiser avec une série de comités nationaux qui vont agir dans les différents pays pour défendre les intérêts des banques suisses. Et les diplomates suisses, à ce moment-là, vont travailler étroitement avec les banquiers, mais toutefois, ils ne seront pas toujours informés par les banquiers eux-mêmes de toute une série d'activités que les banquiers exercent au nom de leur statut d'acteur privé de l'économie, qui donc défendent le secret des affaires et ne communiquent pas des informations aux diplomates suisses, qui parfois sont informés par des autorités étrangères de ce que font les banquiers suisses dans tel ou tel pays. Donc, à cause de la guerre, à cause des crises économiques, il y a la nécessité pour l'État d'être plus actif, d'être mieux informé, de prendre une série de décisions. Et pour les banquiers qui, en général, essayent de résoudre les problèmes eux-mêmes avec leur propre réseau extérieur, avec leurs contacts internationaux, il arrive un moment où ils ne peuvent plus agir seuls. Ils sont obligés, à cause de la politique des États étrangers, de contacter les diplomates de la Confédération et d'agir de manière coordonnée. Et cette coordination n'est pas toujours aisée parce qu'il y a des intérêts divergents, il y a des perspectives.
On s'est fâché parce que vous savez bien ce qu'on dit. On dit souvent que le président de l'Association suisse des banques est un conseiller fédéral qui ne dit pas son nom, étant donné l'influence qu'on prête à cette organisation. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même pu avoir des conflits.
Tout à fait, il y a eu des conflits. Bon, d'ailleurs, il y a des conflits à l'intérieur du monde bancaire entre les banquiers privés et les grandes banques qui ne sont pas toujours d'accord sur la stratégie, qui ont un rapport différent par rapport à l'État, par exemple. Et il y a aussi toute une série de tensions entre le Fororht, l'organisation, disons, plus liée à l'industrie et au commerce, qui, elle, a été fondée dès 1870 et qui a donc déjà une tradition de collaboration étroite avec l'État, tandis que l'Association suisse des banquiers, qui vient plus tard dans la chronologie, en 1912, a moins de relais politiques pendant une certaine période. Et elle doit, à ce moment-là, notamment dans ce contexte de la crise économique où il s'agit de répartir des ressources disponibles qui sont en réduction, elle doit défendre les intérêts de la place financière et des fois il y a des tensions manifestes où les industriels et les commerçants disent voilà, nous avons des créances sur l'étranger et nous voulons que ces créances soient remboursées et les banquiers qui expliquent, oui, mais la présence suisse dans le monde, ce n'est pas seulement les industries et les commerçants, mais ce sont aussi les banques, leurs clients qui doivent aussi être respectés et leurs créances doivent aussi être satisfaites. Donc il y a des tensions entre ces différents pôles de la société suisse et de son économie. J'ai appelé ce système un système polycratique parce qu'il y a plusieurs pôles de pouvoir et des tensions qui sont manifestes, notamment lorsqu'on consulte les archives, que ce soit les archives des banques ou les archives publiques. Et c'est un des enjeux de cette période de la guerre, c'est de maintenir un consensus suffisamment fort pour pouvoir être dans une situation favorable dans l'après-guerre.
Vous venez de glisser un mot auquel je voudrais m'arrêter, parce que je me suis beaucoup posé la question en regardant votre livre. Mais comment il a fait ? C'est-à-dire, on est quand même dans du délicat, là. Il s'agit d'affaires qui peuvent poser problème. Est-ce que mener votre recherche sur, en particulier, les banquiers, parce que, bon, les diplomates, c'est un peu différent, ce sont des archives fédérales, c'est probablement un tout petit peu différent. Mais vous avez pu fouiller dans les archives bancaires pour arriver à en savoir davantage ?
Alors, les archives bancaires, je ne les ai pas étudiées pour rédiger ce livre, mais j'ai rédigé d'autres livres avec mes collègues dans le cadre de la commission Bergier, et là, nous avions accès aux archives bancaires. Nous avons donc pu publier une série d'informations, mais disons que dans le mandat de la commission Bergier, qui devait traiter une série de problèmes qui avaient à faire avec les relations économiques et financières pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, cette question des relations entre milieu bancaire et autorité politique n'était pas dans le mandat de la Commission. Donc, après la fin des travaux de la Commission Bergier, j'ai repris une série de dossiers qui, là, étaient des dossiers librement consultables, que ce soit dans les archives de la Banque nationale à Zurich, dans des archives de certains banquiers qui sont disponibles dans des archives publiques à Zurich et à Bâle. Les archives de l'Association suisse des banquiers sont toujours consultables. Et donc, c'est ainsi que j'ai pu compléter et élargir ce qu'on avait pu faire dans le cadre de la commission Bergier. Il y a aussi des documents qui étaient des documents allemands qui avaient été saisis par l'armée rouge en 1945, qui avaient été envoyés à Moscou et qui étaient restés, qui sont en grande partie encore actuellement, mais dont des microfilms ont pu être faits et que j'ai pu consulter à Zurich. Donc c'est l'ensemble de ces sources, en grande partie inédites, que j'ai utilisées pour rédiger cet ouvrage.
En direct de notre passé, Jacques Mourican.
Il faut, Marc Pernoud, que vous mettiez en scène, dans cette pièce où en fait on marche sur les œufs en permanence, un personnage qui s'appelle Walter Stücki, et dont j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi il était aussi important pendant cette période.
Effectivement, c'est une personnalité centrale pour cette période et j'ai choisi de présenter ses activités à travers les années 1938-1946, parce qu'il a d'abord été, pendant la Première Guerre mondiale, secrétaire général du département de l'économie publique. Donc il avait déjà une vue sur comment agir dans un contexte de guerre mondiale et comment préserver les intérêts suisses au moment où il s'agit de sortir de la guerre et de bâtir un nouveau type de relation avec le monde. Et ensuite, il était reparti dans l'économie privée. Il est revenu dans l'administration fédérale comme directeur de la division du commerce, donc qui s'occupait des relations commerciales extérieures. Ensuite, il est devenu délégué du Conseil fédéral au commerce extérieur. Et à la fin des années 30, il devient ministre de Suisse, en fait ambassadeur, à Paris et ensuite à Vichy jusqu'en 1944. Il devient un des proches du maréchal Pétain. Il joue un rôle important pour sauver la ville de Vichy de la destruction, ce qui fait qu'il est à la fois citoyen d'honneur de la ville de Vichy et titulaire de la Francisque du Maréchal. C'est une conception de la neutralité qu'on peut souligner. Et il revient à Berne à la fin de l'année 44. Là, il y a un renouvellement considérable du corps diplomatique, mais aussi de la direction du département politique, donc du ministère des Affaires étrangères. Et le nouveau ministre, Max Petitpierre, arrive en février 1945. Et dès le début de 1945, Walter Stucki va jouer un rôle très important pour négocier à la fois avec les Allemands, qu'il connaissait bien parce qu'il avait négocié avec eux pendant l'entre-deux-guerres sur les questions économiques, mais aussi avec les Alliés qui arrivent...
Très fâchés quand même. Assez fâchés, oui.
Voilà. Et qui ont des exigences qui vont au-delà de ce que les Allemands avaient exigé, même au fait de leur puissance. Donc, de 1945 à 1946, Walter Stucki va jouer un rôle très important pour ces négociations internationales. Et c'est lui qui va être à la tête de la délégation suisse, qui va négocier à Washington en 1946 et qui aboutira à ce qu'on appelle l'accord de Washington, qui est la manière dont la Suisse va pouvoir échapper aux problèmes de la Deuxième Guerre mondiale et s'insérer à sa manière dans les relations internationales de l'après-guerre. Donc Walter Stucki a été impliqué dans toute une série de décisions, à la fois publiques et privées, avec les partenaires de l'Axe comme avec les partenaires alliés pendant toute cette période. Et c'est pour ça que j'ai choisi de lui accorder une importance considérable dans ma thèse, mais qui est aussi son rôle considérable pendant cette période.
Non seulement il négocie avec des partenaires étrangers, mais il négocie avec des partenaires suisses. Il faut peut-être d'ailleurs commencer par là. Puisqu'au fond, alors vous dites de lui que c'est un homme très élégant, autoritaire. Et au fond, de temps à autre, qui va sonner les cloches, si je puis dire, à un certain nombre de ses amis, par exemple en les sensibilisant à la question sociale, on peut dire, avant-guerre, si j'ai bien compris, et après-guerre, en disant, bon, écoutez, on recommence plus comme avant.
Avant la guerre, il a joué un rôle politique. Il était à un moment conseiller national du Parti radical et il était partisan d'une coalition du centre, c'est-à-dire des radicaux, d'autres forces démocratiques et du Parti socialiste pour créer un consensus en Suisse qui permette de défendre les intérêts de l'économie suisse sur la scène internationale. Disons, ce qu'il n'a pas obtenu en 1938 dans les négociations à l'intérieur de la Suisse, ses amis et d'autres l'obtiendront en 1943-1944. Et ce sera extrêmement important parce que le premier conseiller fédéral socialiste, Ernst Nobs, à partir de janvier 1944, reprend le département des finances. Donc il joue un rôle très important dans les négociations avec les Alliés, avec les Allemands, pour l'avenir de la place financière suisse. Et donc là, il y a eu un consensus où le Parti socialiste a aussi accepté de participer à cette défense des intérêts privés à l'étranger.
Moi je vole à la tienne, vole roi financier, des cynismes au sourire. Nous construisons des murs, tu construis l'avenir. Dans des villes d'enclaves, peuvent dans les métros. Sous le chant des esclaves, sous l'envol de l'oiseau. Je suis un étranger, l'aurore. Toi les camps à Calais, nous les désillusions, toi le béton armé, notre vieille culture, toi petite ouvrière des villes, nos réserves c'est sûr, toi l'enfer des bidonvilles.
On quitte un instant ces périodes lointaines pour prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic RTS. Suite à un accident sur l'autoroute Brigue-Martigny, des ralentissements sont signalés entre Sion Est et Sion Ouest. Une voie est fermée en effet en direction de Martigny.
Vous nous avez, au fil de cet entretien, raconté toutes les implantations de capitaux un peu partout dans le monde, mais on est encore dans un moment où on est assez libre des mouvements de capitaux, etc. Comment ce jeu des diplomates, des banquiers se déroule-t-il pendant la guerre ? Marc Pernoud.
Alors, pendant la guerre, on voit une évolution qui va dans le sens d'une intervention plus importante de l'État, parce que les États étrangers considèrent que la Suisse doit participer au financement des relations économiques extérieures. Et là, c'est assez intéressant de voir comment, par exemple, en 1938, l'Allemagne, qui était déjà assoiffée de devises et considérablement endettée, demande à la Suisse des crédits pour pouvoir financer ses relations extérieures. La Suisse refuse en disant « les finances fédérales ne nous permettent pas de payer ces prestations ». Et...
Attendez, pardon, je vous arrête. Financer les relations extérieures, j'ai un peu de peine à comprendre. Vous voulez dire que l'Allemagne aurait demandé à la Suisse de financer quoi ? Sa propre action diplomatique, etc.
C'est un peu... les exportations des entreprises suisses.
Ah, les exportations des entreprises
suisses. Des entreprises suisses vers l'Allemagne, parce que l'Allemagne, étant considérablement endettée, n'avait plus les moyens de payer les importations de produits suisses en Allemagne. Alors elle demande, oui, voilà, nous sommes dans une situation transitoire, vous devez nous accorder un crédit. Les Suisses refusent en disant, non, les finances fédérales sont déficitaires, nous ne pouvons pas le faire. Et la réponse du chef de la délégation allemande, c'est de dire, mais enfin, la Suisse est le réservoir européen des capitaux.
Elle n'a pas tout à fait tort.
Vous devez payer. Alors ils maintiennent cette attitude négative du côté suisse, mais en 1940, après les victoires allemandes, après la débâcle française, à ce moment-là, on dit oui, il faut payer, l'Allemagne nous tient la corde au cou, il faut qu'on paye. Et Marcel Pilegola, le chef de la diplomatie suisse de l'époque...
Qui n'était pas franchement anti-nazi.
Voilà, mais qui avait une politique financière qui s'adaptait en fonction des circonstances, a dit « bon, ben, il faut payer, on ne va pas négocier pour 1 million de plus ou de moins, mais donc on va accorder des crédits importants ». Alors, il y a des crédits importants qui ont été accordés à l'Allemagne et à l'Italie, qui, à la fin de la guerre, vont être élevés de plus d'un milliard. Et ces crédits vont permettre aux Allemands de se fournir en Suisse avec une série de produits industriels dont ils avaient besoin dans le cadre de l'économie de guerre.
Mais ces crédits, ça vient des finances publiques ou ça vient des banquiers, d'où à ce moment-là justement le sens de votre titre, c'est-à-dire qu'on voit bien là l'ambivalence. Alors cet argent, il vient d'où ?
Alors justement, c'est un argent public. C'est la Caisse fédérale qui est mise à contribution. Et c'est intéressant de voir dans ce contexte-là que les banquiers restent prudents. Eux accordent des prestations financières à très court terme, dans des délais de 3 mois en général, qui ne laissent pas de traces dans les bilans bancaires, mais qui permettent de créer du goodwill vis-à-vis des partenaires étrangers. Tandis que les prestations massives sur le plan économique, c'est l'État qui les fournit. Donc, il y a une nouvelle répartition des risques. Les risques liés à la guerre, c'est l'État qui les prend en charge, tandis que les banques, elles, accordent des prestations à l'étranger, mais à très court terme, et préfèrent, au fond, financer le déficit des finances fédérales plutôt que de consacrer leurs capitaux à financer les relations économiques extérieures.
Ça s'appelle jouer au billard, ça, parce qu'en somme, indirectement, ça revient au même, quoi. Mais ça n'est pas fait directement, c'est ça. Oui. Alors maintenant, je suis l'ambassadeur de Suisse à Londres ou je suis l'ambassadeur de Suisse à Washington. Il se passe ce que vous venez d'expliquer. J'imagine que les autorités que je rencontre de temps à autre ne doivent pas être très contentes de cette situation.
Alors justement, si vous étiez dans cette situation, vous seriez...
J'ai renoncé.
c'est votre choix.
Oui, il faudra que j'y réfléchisse.
Les diplomates qui étaient en poste à Londres et à Washington sont évidemment confrontés à des pressions de plus en plus importantes parce que petit à petit, les informations parviennent aux alliés sur le fait que la Suisse a fait des concessions économiques importantes. Alors, on les justifie au nom de la nécessité de lutter contre le chômage, mais cela convainc à moitié les alliés. Toutefois, la Suisse a un autre argument, c'est le franc suisse. La monnaie helvétique est devenue une devise internationale et surtout à partir de l'été 40, quand la livre sterling ne peut plus être utilisée à travers le monde et n'est plus reconnue, de même que le dollar dans certaines régions, le franc suisse est apprécié par tous les belligérants et tous les belligérants souhaitent détenir des francs suisses, y compris les alliés. Donc, il y a, à ce moment-là, et plus la guerre va avancer, il y a une série de prestations financières qui sont accordées, là plutôt sur le plan monétaire, aux alliés pour qu'ils puissent continuer à financer un certain nombre d'activités liées à la guerre.
Là aussi, des fonds publics.
Alors là, c'est aussi la Banque nationale qui, dans une première phase, va être particulièrement sollicitée. Et à partir d'un certain moment, elle va dire que elle ne peut plus assumer ses charges et va demander à la Confédération de prendre en charge une partie de ses activités monétaires. Et c'est ainsi que le stock d'or détenu par la Confédération va augmenter de manière exponentielle.
Et pourquoi ?
Parce que les alliés offrent de l'or pour obtenir des francs suisses. Et la Banque nationale, pour des raisons monétaires, ne souhaite pas augmenter son stock d'or de manière énorme et donc demande à la Confédération d'intervenir dans ce contexte-là.
Alors on comprend bien dans ce que vous êtes en train de nous expliquer, Marc Pernoud, que il y a eu des moments probablement où ces types ont dû avoir des frissons dans le dos, parce que c'est un jeu d'une subtilité. Est-ce que lorsque vous lisez ces archives, vous avez témoignage, je ne veux pas dire d'une peur, mais du caractère extraordinairement sensible de ce qui était en train de se jouer, en somme?
Oui, les acteurs se rendent compte qu'ils sont dans une période cruciale, évidemment avec ce qui se passe dans le monde, et les pressions considérables que les Allemands, notamment pendant l'été 40, peuvent imposer à la Suisse, mais aussi à la fin de la guerre, ce que les alliés, en particulier les Américains, demandent à la Suisse. Et donc là, il y a une série de décisions particulièrement lourdes à prendre, et le Conseil fédéral, comme la Banque nationale, comme l'Association suisse des banquiers, discutent longuement de ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est nécessaire d'accepter, ce qu'il est indispensable de refuser. Il y a ainsi tout un équilibre qu'il est délicat de trouver pour pouvoir maintenir une situation dans laquelle la Suisse, qui reste épargnée sur le plan militaire par la guerre, puisse avoir une situation où elle a placé ses atouts dans différents domaines, en améliorant ses relations avec les différents belligérants, et de se mettre dans une situation qui permet de sortir de la guerre sans être complètement en conflit avec un ou l'autre des belligérants. Donc il y a nécessité de jouer avec plusieurs atouts, que ce soit les atouts commerciaux, industriels, financiers, monétaires, même les atouts humanitaires aussi, puisque à la fin de la guerre, on développe la politique humanitaire pour financer une série d'activités pour venir au secours des populations éprouvées par la guerre. Donc il y a plusieurs atouts qui sont utilisés et développés en fonction de ce conflit mondial particulièrement dramatique.
En direct de notre passé, Jacques Mourican.
La fin de la guerre, ce moment des années 45, 46, 44, 45, 46, où Walter Stücki en personne donc va jouer un rôle important pour essayer de se sortir d'un guépier où les Américains sont quand même très très agressifs, peut-on penser. Évidemment, le problème des Américains, c'est qu'ils sont en Amérique. C'est-à-dire qu'au fond, les jeux d'influence à l'intérieur de l'Europe, ils ne connaissent pas très bien, très directement. Quel rôle ont joué des gens qui connaissaient mieux la Suisse Parce qu'ils étaient d'abord simplement plus proches, tout simplement. Les Français, je pense, les Anglais, qui n'ont pas toujours tellement beaucoup aimé la Suisse. Dans ces moments un peu durs, comment ça se passe? Ils essayent d'enfoncer la Suisse ou au contraire, ils essayent d'arranger les bidons, comme on dit. Marc Pernoud.
Alors, pour les Américains, il y a aussi quelques personnalités américaines qui connaissaient bien la Suisse aussi, puisqu'il y avait eu des activités d'espionnage qui ont été organisées.
La famille Dulles.
Voilà. Qui était
Alan Dulles et son frère, j'ai oublié son nom.
Voilà. Les deux étant à la fois, disons, des fonctionnaires de l'administration américaine, mais aussi des avocats d'affaires qui connaissaient bien les relations économiques internationales. Ils connaissaient aussi les activités d'entreprises américaines qui ont été actives en Allemagne pendant cette période-là. Donc, ils avaient aussi une certaine compréhension de la Suisse, comment elle fonctionnait, quelles étaient ses possibilités et les limites de ses activités. Donc là, il y avait une possibilité pour la Suisse de faire valoir ses arguments. Vis-à-vis des Français, il y avait aussi d'autres arguments qui étaient aussi le fait que, par exemple, on pouvait accorder des crédits. Et en mars 1945, lors de ces négociations extrêmement dures avec les Alliés, on a accordé un crédit à la République française qui a pu ainsi acheter des biens d'équipement qui ont joué un rôle important pour la reconstruction de l'économie française. Avec la Grande-Bretagne, c'est aussi la même chose. Il y a aussi un crédit qui est accordé pour pouvoir permettre à l'économie anglaise de se rétablir. Donc, il y a ces différents arguments que la Suisse pouvait utiliser pour défendre ses intérêts. Et une personnalité comme Walter Stucki était très importante dans ce contexte-là parce qu'il avait joué un rôle important dans la Société des Nations pendant l'entre-deux-guerres. Donc, toute une partie des négociateurs anglo-saxons, il les connaissait déjà parce qu'il avait négocié avec eux ou il les avait rencontrés dans des conférences internationales pendant l'entre-deux-guerres. Donc, il avait un certain nombre de contacts internationaux qu'il a pu utiliser et il avait aussi une perception de l'évolution internationale. Quand on voit ce qui se passe à Washington en 1946, on voit bien que une certaine lenteur suisse, la nécessité de toujours discuter avant d'accepter des concessions et que finalement les accepter sous des pressions importantes et aussi liée à la perception que quelqu'un comme Walter Stucki avait du fait que les alliés sont de plus en plus divisés à cause du conflit entre l'Union soviétique et les Américains. Donc il sent que ce qu'on appellera plus tard la guerre froide est en train de se développer et que plus on attend, plus les Américains auront d'autres soucis et la menace soviétique va les préoccuper de plus en plus et le souci de régler la question liée à la Deuxième Guerre mondiale et au rôle de la Suisse dans ce contexte-là va devenir de plus en plus secondaire pour les Américains. Donc là, Walter Stucki va à la fois jouer la montre, comme on dit, jouer sur les divisions entre les alliés, que ce soit les alliés occidentaux ou Moscou et Washington, et ainsi obtenir cet accord à Washington en mai 1946, qui est un accord que William Rappard, le conseiller de la délégation, qualifie de miracle diplomatique. Parce qu'il dit, quand on sait ce que les Américains exigeaient de nous, et puis ce qu'on a obtenu finalement comme concession, c'est absolument remarquable. On aurait été obligé de payer beaucoup plus s'il n'y avait pas eu ce rôle de la diplomatie, et notamment de Walter Stucki, qui a su jouer sur les différentes composantes de la situation internationale pour garantir les intérêts de la Suisse.
Il nous faut conclure, Marc Pernoud, mais je ne peux pas m'empêcher de prendre un peu de distance avec notre sujet, me dire, mais finalement, on serait en train de raconter cette histoire aujourd'hui, ça serait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, on trouve là, derrière tout ce que vous êtes en train de nous raconter, une sorte de permanence de à la fois la contrainte et l'astuce d'un petit pays, est-ce que je me trompe?
Alors il y a des permanences, mais il y a aussi des facteurs qui sont différents. Mais disons, ce qu'on peut comparer, c'est le fait que, par exemple, en 1941, après les pressions de plus en plus fortes des Américains sur les banques suisses, on voit qu'une série de parlementaires interviennent auprès du Conseil fédéral pour créer une section spécialisée à l'intérieur du département des affaires étrangères qui s'occupera de la défense de la place financière suisse. Et ce sont ces diplomates, qui en particulier étaient de jeunes diplomates qui se sont beaucoup documentés, qui sont bien informés, qui vont jouer un rôle de plus en plus important dans les négociations avec les alliés en 43-46, et certains quitteront ensuite le service public pour aller dans l'économie privée. On peut faire une comparaison avec ce qui s'est passé récemment, avec les mesures qui ont été prises par le Conseil fédéral pour défendre les intérêts des banques suisses. En même temps, il y a des différences qui tiennent, bon, évidemment, à la situation de la Deuxième Guerre mondiale, qui a une série de caractéristiques spécifiques. Mais il est certain que la Suisse, pendant cette période, a su jouer sur les conflits internationaux pour pouvoir préserver son indépendance. Et sans s'exposer de manière trop unilatérale d'un côté ou de l'autre, laisser ouvertes les différentes possibilités pour être dans une situation favorable pour l'après-guerre. Elle n'a pas profité au sens massif du terme de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a préservé ses intérêts pour être dans une situation qui permettra à la place financière suisse de connaître une expansion considérable au cours des années 50-60, et ainsi de jouer ce rôle qu'on peut qualifier de rôle de grande puissance que joue la Suisse dans les relations internationales sur le plan financier.
Fin de cette émission où notre fil rouge a été Marc Pernoud. Je vous rappelle qu'on lui doit un livre, un énorme livre, paru aux éditions Antipode, Banquier et diplomate suisse, 1938-1946. Demain, on fait un bond en avant pour la dernière émission de cette série d'En direct de notre passé, puisque nous interrogerons sur mai 68 en Suisse Damir Skanderovic et Christina Spetti, l'un et l'autre enseignant et chercheur à l'Université de Fribourg. Je vous rappelle que le rendez-vous avec la télévision ce soir sur RTS1 est à 19h05. Merci à Jean-François Miseret qui a réalisé cette émission et à Nathalie Schauenberg qui en a sélectionné les musiques. Bon après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est 16h.
En direct de notre passé, avec Le Quotidien Le Matin et son site lematin.ch.